Pays d'aujourd'hui, territoire de demain. Votre proche environnement évolue grâce aux missions du pays de la Haute-Sarthe et du SCOT pour rendre cohérents les services et l'espace de votre lieu de vie que vous utilisez au quotidien. Bien comprendre son territoire de vie est essentiel pour mieux y vivre. Cette émission, initiée par le pays de la Haute-Sarthe, vous informe sur votre territoire. Une émission co-réalisée par Radio Alpes-Mancel 106.3 et Fréquence Sillée 97.9. Aujourd'hui, qu'est-ce que le pays de la Haute-Sarthe? Une émission présentée et réalisée par Valérie Poulain de Radio Alpes-Mancel.
Monsieur, le pays, ça vous parle pas?
Non, pas tellement, non. Non, mais...
Le pays de la Haute-Sarthe, vous n'en avez jamais entendu parler?
Si, j'en entends parler, mais pour vous expliquer, c'est bon. D'accord.
Vous savez pas du tout ce que c'est? Quel territoire ça concerne, par exemple?
Ben, c'est tout le nord, le nord d'Orf, le nord Sarthe, en fin de compte, c'est ça, oui. Tout ce qui est Saint-Léonard des Bois, sur Roissy-Vassé, tous ces secteurs-là, oui. Ça doit être ça.
Vous souhaiteriez savoir
ce que le pays fait
pour les habitants?
Oui. Non, c'est vrai qu'on pourrait savoir un peu plus, parce qu'on nous pose des questions et des fois on a du mal à répondre.
Ben, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Nous recevons Madame Catherine Sadon, qui est directrice de la Fédération nationale des pays. Madame Sadon, bonjour.
Bonjour.
Madame Sadon, de nombreuses personnes ignorent l'origine de la création des pays. Création de pays en étroit lien avec l'aménagement du territoire. Quand et pourquoi sont apparus le projet des pays?
Alors, les pays sont nés, pour certains d'entre eux, il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Mais c'est une première loi en 95, celle qu'on appelle la loi Pasqua, loi d'orientation et d'aménagement du territoire, qui a inscrit dans le corpus législatif les pays. Cette loi de 95 plaçait les pays donc au cœur de l'aménagement du territoire, et puis une loi suivante qui était la loi Voinet, LOADT, d'aménagement et développement durable des territoires, a ensuite, quelques années plus tard, conforter les pays qui étaient appelés, grâce à la contractualisation, à couvrir l'ensemble du territoire français. Et ces pays étant très orientés vers le développement local et l'aménagement du territoire. Et l'objectif étant de faire du développement durable des territoires.
Avec un objectif de cohérence à travers les services et les actions en direction du public?
L'objectif était de reconnaître la base territoriale qui servait à constituer ce pays. C'était de reconnaître la cohésion économique, culturelle et sociale du territoire. Et donc, à partir de cette base-là, un pays doit élaborer un projet de territoire à court, moyen, long terme, avec un aspect un peu prospectif, avec des orientations et une stratégie de développement qui prend en compte tous les aspects de la vie d'un territoire. On peut dire au départ, c'est que l'intercommunalité avait n'en était qu'à ses débuts. C'était en 95, la loi Chevènement n'avait pas encore été votée, et par contre la loi Voinet a été votée en peu près en même temps que la loi Chevènement, et l'intercommunalité s'est développée ensuite. Et donc les premiers pays se sont appuyés sur les communes et non pas sur les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Par contre, au fil des années, ce sont plutôt les communautés qui sont la base des pays, la base territoriale et institutionnelle des pays.
Alors comment le découpage s'est opéré? Avec quelles notions? Est-ce qu'il y avait des notions culturelles, économiques, sociales?
Donc le découpage s'est fondé sur cette cohésion économique, sociale, culturelle, un territoire qui se trouvait une cohérence À la fois en termes de diagnostic territorial, on a fait des diagnostics pour identifier quels étaient les points de convergence de ce territoire. Donc ça, c'est la première partie qui était celle du diagnostic. Et puis ensuite, sur la base du projet stratégique, on a défini des orientations dans lesquelles l'ensemble du territoire et des acteurs du territoire se retrouvaient. C'est sur cette base-là. Et dans la partie première, ou après la loi Vasquois, puis surtout la loi Voynet, et jusqu'en 2006, pour reconnaître un pays, on s'appuyait sur toute une procédure de reconnaissance qui aboutissait à un arrêté du préfet qui permettait de reconnaître le pays.
Alors, quel est le statut du pays ?
Alors, il y a trois ou quatre statuts. Je dis trois ou quatre parce qu'il y en a un qui n'est pas vraiment un statut. Un statut d'association, donc une simple association, loi 1901. Un syndicat mixte, un GIP, un groupement d'intérêt public. Et puis la dernière formule juridique qui n'en est pas une, c'est aucune. C'est pour ça que je dis que ça n'en est pas une. Mais c'est un accord, une convention entre communautés de communes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de statut juridique à proprement parler. Donc association, syndicat mixte, GIP ou convention entre communautés.
Et alors tout cela en même temps ou l'un ou l'autre ?
Toutes ces formes juridiques coexistent. Alors dans la première période de la vie des pays, les associations étaient très très nombreuses, beaucoup plus nombreuses que les autres formules parce que c'est très souple, c'est facile de créer une association. Et puis petit à petit, le nombre le plus important de syndicats mixtes est apparu. Il y en a de plus en plus des syndicats mixtes, syndicats mixtes fermés ou syndicats mixtes ouverts. Les GIP sont assez peu nombreux. Il y en a 25, je crois, à peu près en France actuellement, donc ce qui est assez peu sur les 370 pays qui existent sur le territoire français. Donc les GIP, on les trouve essentiellement en Bretagne et puis en quelques autres endroits en France, mais voilà, les GIP sont beaucoup moins nombreux que les syndicats mixtes. Les syndicats mixtes étant actuellement très nombreux parce que un grand nombre de pays conduisent en même temps des schémas de cohérence territoriale, des SCOT, et les SCOT peuvent être portés soit par des communautés, soit par des syndicats mixtes. Et une centaine de pays environ sont en même temps syndicats mixtes de pays et syndicats mixtes de SCOT. D'où cette montée en puissance des syndicats mixtes, les SCOT ne pouvant pas du tout être conduits par une association.
Madame Sadon, pouvez-vous nous schématiser l'organigramme d'un pays type, si je puis dire ? Alors, un pays est présidé par un président ?
Alors, un pays est présidé par un président, oui. Alors, un pays, ce qu'il faut dire, malgré tout, avant de répondre à votre question, c'est qu'il y a une très grande diversité dans les modes de fonctionnement des pays. Et c'est d'un pays à l'autre une très très grande hétérogénéité. Donc on peut avoir beaucoup de modes de fonctionnement. Et un pays type, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Néanmoins, il y a malgré tout une base qui fait que le pays peut être considéré comme un pays type, un mode de fonctionnement du pays, et d'avoir d'une part la structure porteuse du pays qu'on évoquait tout de suite, c'est-à-dire association GIP ou syndicat mixte, et puis à côté de cette structure juridique, il y a un conseil de développement. Le conseil de développement étant composé de représentants de ce qu'on appelle la société civile, enfin des acteurs locaux, autres que les élus. Parfois il y a des élus, parfois il n'y a pas d'élus, mais en tout cas il y a des acteurs économiques et sociaux du territoire qui sont aux côtés des élus pour les accompagner, les aider, sont force de proposition aux côtés des élus au sein de ce conseil de développement. Donc le président du pays est le président de la structure porteuse, c'est-à-dire du syndicat mixte ou de l'association ou du GIP. Et puis à côté, il y a le conseil de développement avec son président aussi. Après, à côté de ce conseil de développement et de cette structure porteuse du pays. Il y a des commissions, des groupes de travail qui réunissent aussi bien les représentants du syndicat ou de l'association et ceux du conseil de développement et qui travaillent sur des projets. Et donc là, après, les actions et les projets qui sont conduits par le pays sont différents d'un territoire à l'autre. Dans certains pays, on va plus travailler sur des questions de développement économique, de tourisme ou de service à la population. Dans d'autres pays, on va travailler sur des questions de transport ou sur des questions de planification spatiale, ou de culture, ou de sport, ou de... Voilà. Et ce qui relie aussi l'ensemble des pays, c'est que les pays ont, pour la plupart, signé un contrat de pays pour plusieurs années, ce qui a été institué par la loi Voynet, que j'évoquais tout à l'heure. Ce contrat, il est signé avec la région et l'État. Au départ, c'était la région et l'État. Maintenant, c'est le plus souvent seulement avec la région et parfois le département, moins souvent l'État. Et donc, dans ce contrat, il y a des crédits qui permettent de financer des actions et qui participent à l'aménagement du territoire de ce pays. Et le pays est, et c'est une de ses plus-values, c'est que il fait de la coopération entre intercommunalités. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'au départ, c'était des communes seulement qui adhéraient au pays, qui étaient les membres du pays. Maintenant, ce sont les communautés. Et le pays met en œuvre des actions qui favorisent la coopération et la coordination entre les communautés qui le composent.
Voilà, avec des retombées, bien évidemment, directement en direction des habitants de ce territoire.
Oui, alors bien sûr, les actions de coopération ou de coordination, c'est pour éviter de faire des doublons dans deux communautés de communes voisines, mais c'est aussi pour conduire des actions comme par exemple un plan climat énergie territorial, pour la PCET, on appelle ça, qui est beaucoup plus utile à une échelle qui dépasse l'échelle de la communauté et qui permet de mutualiser entre communautés un certain nombre d'actions. Ceci dit, le plus souvent, la vraie plus-value des pays, elle se situe plutôt à l'échelle, au niveau de la stratégie territoriale et non pas de la mise en œuvre. On pourrait distinguer que les pays sont l'échelle de réflexion stratégique territoriale et les communautés, communautés communes ou communautés d'agglomération, sont l'échelle de mise en œuvre, l'échelle de maîtrise d'ouvrage des actions et de conduite des actions. Mais souvent les financements arrivent via ces contrats que j'évoquais tout à l'heure, sur la base d'une réflexion d'aménagement du territoire stratégique pour l'avenir. Et les actions déclinent cette stratégie et les financements viennent par pour une partie d'entre eux, par l'intermédiaire de ces contrats participent à l'aménagement d'un territoire à une échelle plus large que la communauté. Mais infra-départemental. À l'intérieur des départements.
Madame Sadon, je le disais au début de notre rencontre, vous êtes directrice de la Fédération nationale des pays. Pouvez-vous nous expliquer son rôle et ses fonctions ?
Donc en France, j'ai évoqué tout à l'heure, en France, il y a 370 pays qui couvrent à peu près presque tout le territoire national, sauf l'Île-de-France. En Île-de-France, il y a un pays seulement. Et puis sur le littoral méditerranéen, où il y a très peu de pays, mais parce qu'il y a beaucoup d'agglomérations. Et puis aussi en Vendée, où traditionnellement il y a peu de pays. Donc ces 370 pays, nous les représentons auprès des pouvoirs publics. Nous avons donc une mission de représentation de ces pays auprès de l'État et des régions. Et par exemple, lors de la loi du débat et du vote de la loi de réforme des collectivités territoriales, qui a abouti par un vote donc en décembre 2010, nous avons beaucoup participé au débat et nous avons été auditionnés, on a défendu les intérêts des pays pour aboutir à ce qui était retenu, bon, qui ne nous satisfait pas complètement, mais une première avancée a été en tout cas de maintenir les pays existants. Donc c'est tout le travail de représentation qui est le nôtre. Et nous poursuivons ce travail-là dans la préparation de l'acte 3 de la décentralisation qui se profile dans un horizon assez court à partir de la rentrée. Donc tout ce travail, c'est un travail de lobbying auprès des ministres, auprès des parlementaires, mais aussi auprès des présidents de régions, dans le cadre notamment de la politique de contractualisation que les régions conduisent. Donc ça, c'est tout cette mission de représentation qui nous occupe beaucoup. Et puis nous avons deux autres mission. La première d'entre elles, c'est une mission d'accompagnement des pays dans leur action quotidienne, c'est-à-dire que nous sommes en veille de tout ce qui peut sortir comme texte, qu'il s'agisse de loi, mais aussi de circulaires ou autres, pour informer les pays et les aider à remplir leur mission quotidienne. Et puis nous avons un rôle d'animation de ce réseau, de ces 370 pays, et nous organisons un certain nombre de réunions, d'échanges, de pratiques, d'échanges aussi d'inquiétudes parfois ou d'interrogations, de façon à ce que les pays se nourrissent de l'expérience des autres. Et pour ça, nous organisons à la fois des réunions. Nous avons des journées thématiques où viennent les pays, les techniciens des pays le plus souvent, parfois les élus aussi. Nous organisons aussi des réunions un petit peu plus grandes chaque année. Puis nous faisons des questionnaires. Nous avons, pour comprendre dans les questionnaires, quelles sont les attentes des pays, ce qu'ils souhaitent, comment ils voient l'avenir, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, de façon à bien comprendre comment ça se passe sur le terrain. Donc nous sommes en fait entre les deux, à la fois nous nous nourrissons des pratiques de terrain, et puis nous écoutons ce que les pouvoirs publics nous disent, et nous essayons de défendre les intérêts des pays autant que possible.
Madame Sadon, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions afin de mieux comprendre, appréhender cette entité de pays. Je rappelle que vous êtes directrice de la Fédération nationale des pays. Merci à vous.
Merci à vous.
Et le pays de la Haute-Sarthe, ça vous parle ?
Je ne connais pas grand, je connais Coissy et Guillaume, Fresnay, Saint-Léonard-des-Bois. Alors ensuite, Saint-Léonard-des-Bois, après on va à Selboine, Douillet-le-Joli. Il y a encore pas mal de petits bleds.
Il vous en manque là, hein ?
Comment ?
Il vous en manque ?
Il en manque pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il y a Saint-Léonard-des-Bois, ça je le dis.
Est-ce que ça va aussi sur Conly?
Conly, une bonne question, je crois pas. Non.
Et vers le haut, Saint-Paterne, près d'Alençon.
Saint-Paterne, non plus.
C'est plutôt Sillé.
Sillé jusqu'à Mamers, je crois.
Jusqu'à Mamers. Ah. Vous savez ce qu'il, pourquoi il existe, ce qu'il apporte aux gens, aux habitants?
Il apporte rien d'extra. Il apporte rien de toute façon. Bon, ça a été créé, mais bon, alors des députés de plus ou faut payer plus, mais pour apporter, ça rapporte rien au niveau.
Ça n'apporte rien. Ça a été créé.
Rien.
Est-ce que c'est pas parce que justement vous connaissez pas bien le pays? Que vous ne savez pas à quoi ça sert et que finalement il y a un manque de communication là-dessus.
Oui, effectivement, il y a un manque de communication, tout à fait. Il y a un manque, effectivement.
Merci beaucoup.
Monsieur Robin, vous êtes le président du pays de la Haute-Sarthe. Pouvez-vous nous décrire la politique dans le sens noble des missions et des actions que vous allez que vous mettez en place au niveau du pays?
Eh bien, merci de votre accueil, Valérie. Le point essentiel ou la politique essentielle est bien sûr l'émergence de projets qui intéresse le plus grand nombre de collectivités, et bien sûr il doit s'agir de projets collectifs communautaires. il y a lieu de bannir aujourd'hui, en raison de l'évolution et des attentes de la population, les projets individuels, et ça confirme ce que je viens de vous dire, les projets collectifs doivent être ardemment soutenus de manière à pouvoir satisfaire les besoins de la population. Ça, c'est le premier point. Et puis, en toile de fond également, ne pas perdre de vue que le pays a un objet majeur qui ne figure pas forcément dans les statuts, à savoir apprendre à travailler ensemble de manière à mettre en œuvre et développer la coopération entre les différentes collectivités de manière à pouvoir répondre le moment venu à une évolution structurelle, organisationnelle, administrative.
Alors, des exemples concrets à nous citer ?
Bien sûr, et c'est beaucoup plus parlant que les définitions que j'ai pu effectivement évoquer. Parmi les projets soutenus et présentés par les différentes collectivités, il y a un projet de biomasse présenté par la communauté de communes du Pays de Sillé. Il y a bien sûr les projets de construction, de création de maisons médicales de manière à lutter contre les désertifications des professions médicales. Il y a également le soutien aux projets économiques portés par les communautés de communes, et ça répond, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, aux projets communautaires. Et puis, il y a bien sûr un certain nombre de projets plus modestes, mais qui ont trait à l'environnement. Ce sera aussi bien des liaisons douces entre, par exemple, un centre-bourg et un hameau, que l'aménagement de jardins publics intergénérationnels, de manière à pouvoir répondre et améliorer la qualité de vie des uns ou des autres. Et puis bien sûr, aujourd'hui, notre politique est axée sur la préservation de l'environnement, tout en ne négligeant pas les progrès indispensables pour améliorer le confort quotidien des habitants du pays de la Haute-Sarthe. Il y a bien sûr d'autres projets ambitieux qui sont prévus, mais qui nécessiteront en amont tout un travail préparatoire et qui impliqueront d'une manière plus intégrée, à travers, pourquoi pas, une mutualisation de services ou de projets, les différents partenaires du pays de la Haute-Sarthe. Cela viendra en son temps, et il est évident qu'il y a des communautés de communes qui ont des projets incapables d'être portés par une seule communauté de communes, mais qui peuvent, et projets qui peuvent ou qui peuvent intéresser l'ensemble du pays ou une partie, une majorité des membres de la communauté, des communautés de communes. Par conséquent, ça peut être par exemple soutenu par le pays de Sillé, un équipement destiné aux scolaires, aux plus jeunes, pour pourquoi pas l'apprentissage de la natation. Vous avez compris, Sillé a un projet ambitieux de construction et de création de piscines. Cela étant, c'est un projet très important et cela nécessitera une grande réflexion, une réflexion approfondie de la part des différentes communautés de communes, de manière à répondre aux besoins des jeunes scolaires.
Monsieur Robin, vous êtes à la tête du pays en tant que président depuis combien de temps ?
Eh bien, ça doit faire maintenant 8 ans environ que je préside aux destinées du pays de la Haute-Sarthe. Le temps passe et voyez, j'ai hésité à vous donner la date et le nombre d'années exactes. Ça fait 7 ans ou 8 ans. Quand on aime, on compte pas, vous imaginez bien. Ce que je peux dire concernant cette présidence, d'abord, je dois rendre hommage à tous mes collègues qui ont œuvré avec une grande conviction pour la défense et l'émergence de projets aussi bien dans leur commune que dans leur communauté de communes. Je rappelle que le pays est composé de 6 communautés de communes associant 82 communes ou représentant 82 communes. C'est dire qu'il y a un foisonnement de dossiers et de projets portés par les uns et par les autres. Il y a eu également le soutien, ainsi que je viens de le laisser entendre, et une grande confiance réciproque entre les élus et moi-même, le tout s'appuyant sur une équipe administrative dévouée et compétente, et cela a permis de concrétiser, de réaliser des projets qui ont permis à beaucoup d'être satisfaits. Il reste encore beaucoup de choses à faire. L'objectif à terme ou notre attente, c'est bien sûr quel avenir concernant notre pays par rapport à l'évolution de la réforme territoriale en cours. Nous le serons prochainement. Cela étant, une structure qui travaille bien mérite certainement d'être préservée de manière à réunir les bonnes volontés. Et je pense que l'avenir nous permet d'être serein. En ce qui me concerne, je n'ai aucun doute sur l'avenir du pays de la Haute-Sarthe.
Merci Monsieur Robin d'avoir accepté de répondre à ces questions.
Les gens connaissent le pays. Monsieur, ouais. Vous connaissez le pays, ça vous parle? Un pays,
oui,
la Haute-Sarthe.
Oui. Un pays de Haute-Sarthe, oui, quand même. Oui, on est comme courant de Fresnay, tout ça. Ma mère, c'est tout ça. Hein. Oui.
Ça, oui, mais jusqu'à ma mère, ça vous.
Bah après,
vous
moins.
Les chefs de canton qui ont.
Non, après, beaucoup moins. C'est pas un coin vraiment qu'on. Moi, je sais que personnellement, c'est pas un coin que je fréquente beaucoup. Hein. Ouais, à part ma mère, ce que je connais le plus, c'est tout. Hein. Après,
vous
c'est
êtes de Sillé.
Sillé-le-Guillaume, moi. Ouais.
Et Sillé en fait partie.
De la Haute-Sarthe, oui, normalement. Je crois.
Vous êtes ça vous concerne directement.
Bah un peu, oui.
Vous savez ce qu'ils font le pays
Haute-Sarthe
concrètement?
Non, pas spécialement, franchement. Non, c'est pas.
Et ça vous intéresse? Vous pensez qu'il y a un manque de communication?
De communication, oui, certainement.
Parce qu'ils font des choses quand même.
Je sais qu'ils font des choses. De temps en temps, on reçoit un espèce de petit livret et tout ça qui dans les boîtes aux lettres. Avec les pubs, c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il se passe des trucs pour les entreprises, pour les trucs comme ça, voilà. À part ça, autrement, non. Personnellement, sans plus.
Merci beaucoup.
Nous recevons Monsieur Nicolas Potier, qui est directeur du syndicat mixte du pays de la Haute-Sarthe, mais aussi maître de conférences à l'université de Caen. Monsieur Nicolas Potier, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons ensemble présenter les quatre principales missions du pays de la Haute-Sarthe qui sont mises en place sur ce territoire.
Très bien. Alors, effectivement, le pays de la Haute-Sarthe, hein, 82 communes, 6 communautés de communes. Le pays de la Haute-Sarthe, donc aujourd'hui, développe quatre missions bien spécifiques. Alors, la première mission, c'est que le pays met en œuvre une charte de territoire, un projet de territoire. Alors, nous avons le projet de territoire le plus important, donc c'est la charte de pays, qui est sur le thème de la ruralité renouvelée, et dont l'objectif est de favoriser l'enracinement des acteurs locaux et d'encourager l'installation de nouveaux arrivants. Ça, c'est donc le projet de territoire à 20-30 ans qui a été défini en 2002. À l'intérieur de ce projet de territoire, on a différentes stratégies. Alors, on a tout d'abord une stratégie touristique qui est axée sur la thématique de la valorisation et le développement d'activités de plein air sur le territoire. Ensuite, nous avons une stratégie spécifique sur les services à la personne, les services culturels, les services touristiques. Troisième type de stratégie, on a une stratégie au niveau des déchets, puisque on met en œuvre un programme local de prévention des déchets, donc qui tend à diminuer de 7% d'ici 3 ans la production de déchets par les habitants et les entreprises locales. Enfin, un dernier type de stratégie, actuellement, le territoire du pays met en œuvre un schéma de cohérence territoriale, donc c'est un SCOT, qui va donc mettre en cohérence les différentes politiques publiques locales sur le territoire à échelle de 10-15 ans. Voilà, et donc on est aujourd'hui, on intervient aujourd'hui donc sur ce travail qui est important, qui nécessite beaucoup de réunions, des réunions de concertation, qui se déroulent en 3 phases. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le diagnostic du territoire à partir de données très concrètes que nous analyse un prestataire extérieur et qui sont donc ensuite discutées et réfléchies par les élus locaux et par les membres du conseil de développement. Voilà, donc ça c'est la première mission du pays, le développement de projets de territoire. La deuxième mission du pays de la Haute-Sarthe, c'est l'élaboration et la mise en œuvre de partenariats financiers. Alors concrètement, le pays de la Haute-Sarthe négocie des enveloppes financières avec différents partenaires, l'Europe, avec l'État, avec le Conseil régional et avec le Conseil général. Donc en fait, on définit un programme d'action Généralement, c'est entre 3 et 6 ans. Pour l'Europe, c'est 6 ans. Pour le Conseil général et le Conseil régional, c'est 3 ans. Donc, on définit un programme d'action sur une thématique. Pour l'Europe, c'est les services à la personne. Avec le Conseil général, c'est sur le tourisme, par exemple. Avec l'État, aujourd'hui, c'est sur les déchets. Et donc, un contrat est signé entre ses partenaires et le pays de la Haute-Sarthe qui fixe un montant d'enveloppe financière qui vient cofinancer des actions concrètes sur le territoire. Donc sur le tourisme, par exemple, c'est toute la communication touristique qui est financée aujourd'hui par le Conseil général. Sur les déchets, c'est toutes les actions qu'on met, les actions de prévention pour limiter le poids des déchets dans notre poubelle qui sont financées par l'ADEME, donc l'État. Et au niveau de l'Europe, donc c'est un programme leader qui porte sur les services à la personne. Voilà la deuxième grosse mission que remplit aujourd'hui le pays. Ensuite, on a donc deux autres types d'actions qu'on met en place. La première, c'est que le pays intervient sur des dynamiques locales, par exemple sur la vie associative, où là donc le pays tente de mettre en réseau les acteurs associatifs pour mieux les former, pour mieux recruter du bénévolat, pour mieux communiquer. Donc on organise des réunions régulières sur la dynamique de la vie associative. On organise également des réunions régulières sur la production de déchets pour essayer effectivement, encore une fois, de limiter le poids des déchets des poubelles. Et puis donc on appuie aujourd'hui aussi les acteurs économiques par le pays est à l'origine de la création du club d'entreprise de la Haute-Sarthe et donc les entrepreneurs locaux se réunissent au sein de ce club pour échanger des expériences, pour participer à des temps de convivialité pour apprendre à se connaître ou pour visiter des entreprises locales. Donc voilà, on appuie un petit peu ces dynamiques locales et on essaye de mettre en réseau les acteurs pour développer des actions qui leur permettent en tout cas de mieux gérer en tout cas leur domaine d'activité. Et enfin, le pays développe des actions propres sur le territoire, une communication pour diffuser de l'information sur le développement local du territoire. Donc on a une newsletter qui part régulièrement, qui est transmise régulièrement. On a également, sur la thématique des jeunes, un conseil de développement qui travaille avec les jeunes sur le projet de territoire. Là, cette année, le conseil de développement a réuni les jeunes, par exemple, sur le thème de la mobilité chez les jeunes. Donc, une session de parlement jeune organisée tous les ans qui réunit une centaine de jeunes pour essayer de faire avancer la notion de citoyenneté locale au niveau de ces jeunes. Donc voilà un petit peu les quatre domaines d'intervention sur lesquels le pays travaille et sur lesquels on essaye de mettre en œuvre des actions percutantes et qui répondent à des besoins identifiés.
Voilà, alors un point commun sur ces quatre principales missions, c'est un travail à long terme.
C'est un travail à long terme qui, dans le domaine du développement local, et donc, je vous disais, donc la première mission que remplit le pays, c'est donc travailler sur un projet de territoire. Et donc, le pays travaille effectivement à la mise en œuvre d'un projet de territoire avec des objectifs, je vous dis, à 10-15 ans. Un projet de territoire qui s'appuie sur un diagnostic précis qu'on est en train de réalimenter là à travers le SCOT. Et on intervient à une échelle de 6 communautés de communes qui représentent à peu près un quart du département sur le nord-ouest du département. Donc voilà, les spécificités du territoire, du pays, pardon, c'est l'intervention sur 6 communautés de communes, la mise en œuvre de projets de territoire avec les acteurs locaux.
Et tout ça dans un souci que tous ces bénéfices qui vont résulter de ces actions profitent bien sûr aux résidents du pays de la Haute-Sarthe.
Voilà, et dans un souci toujours de développement durable.
Je vous remercie, Monsieur Nicolas Potier. Je rappelle que vous êtes le directeur du syndicat mixte du pays de la Haute-Sarthe, mais aussi maître de conférences à l'université de Caen.
Voilà, et donc pour plus d'informations, le pays dispose d'un site internet où on peut retrouver un peu plus en détail la présentation que je viens de vous faire.
Voilà, vous tapez sur votre moteur de recherche Pays de la Haute-Sarthe et vous arriverez directement dessus. Merci voilà. À vous.
Je vous remercie. Au
revoir. Cette émission Pays d'aujourd'hui, territoire de demain vous a été présentée par le Pays de la Haute-Sarthe en collaboration avec Fréquencillé 97.9 et Radio Alpes-Mancelles 106.3 avec le soutien financier de l'État.